est-ce qu'il y a des aspects qui sont plus importants que d'autres ou est-ce que c'est l'ensemble des conclusions qui est important? Donc, j'ai devant moi comme willful killing, extensive destruction of property, not justified by military necessity. Est-ce qu'il y en a qui sont plus graves que d'autres ou est-ce que c'est vraiment l'ensemble?
Alors, c'est un ensemble de choses. Mais vraiment, cette session a été particulière parce qu'on se penchait sur la question de l'opération Protective Edge. Et c'est une opération qui a été la plus dévastatrice sur la Gaza et sa population depuis 1967. On n'avait jamais connu une opération aussi violente de la part d'Israël. On croyait avoir connu ça avec l'opération Plomb Durci en 2008-2009. Mais cette opération-là, vraiment, a été d'une violence jamais vue jusqu'à présent. Juste un chiffre, par exemple, durant l'opération Plomb Durci, il y avait eu 50 tonnes de munitions, donc de bombes, etc., qui ont été utilisées sur la population de Gaza. Donc 50 tonnes durant l'opération Plomb Durci. Ce coup-ci, pour opération Bordure Protectrice, il y a eu 700 tonnes de munitions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que sur cette session extraordinaire, on a voulu parler, aller plus loin que l'on était que jamais, en fait, en parlant du crime de génocide, sans dire oui, il y a eu génocide, mais en voyant vraiment la violence d'Israël et la rhétorique surtout, et tout ce qui est le langage dans les médias utilisé, donc par les médias, par les gouvernements, les membres du gouvernement et par la société israélienne, on a voulu explorer cette question du génocide. Parce que, comme on dit dans les conclusions, il y a un moment, on sonne la tirette, comment on dit, on sonne l'alarme, en fait, par rapport à Gaza depuis des années, évidemment, depuis vraiment des décennies, encore plus depuis que le blocus a pris place en 2006-2007. Mais là, c'est vraiment un cri d'alarme très fort pour dire, OK, au niveau juridique, il n'y a pas eu génocide sur Gaza et sur sa population ce coup-là, mais l'incitation au génocide présente partout au sein de la société israélienne est quelque chose de très, très, très dangereux, qui peut amener, si ça continue, à une attaque encore plus violente dans un an ou deux, et potentiellement à carrément écraser toute la population palestinienne à Gaza. Donc c'était un cri d'alarme qu'on lançait.
Est-ce que selon vous, c'est une mesure, pas extrême, mais c'est-à-dire, comme vous dites, cri d'alarme, est-ce que c'est ça qu'il faut? Est-ce qu'il faut introduire l'idée du génocide pour que une communauté quelconque soit... la société ou des États même se réveillent vraiment au fait qu'il y a un problème?
Alors, c'est une question très intéressante, en fait, parce que le problème, évidemment, quand on parle de génocide, c'est que ça a des répercussions. C'est un crime qui, dans la société civile, disons, et dans le public en général, associe très vite le génocide avec ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, donc le génocide juif. Donc, il faut faire très attention, évidemment, quand on utilise ce mot. Juridiquement, il est très difficile de prouver qu'il y a vraiment eu génocide. C'est pour ça que dans l'histoire, il y a eu très peu de cas de génocide prouvé. On pense récemment au Rwanda, mais avant le Rwanda, il y avait vraiment eu très peu de cas. Parce qu'il y a cette idée d'intention. Il faut vraiment prouver qu'il y a une intention d'éradiquer une population tout entière. Et cette intention, c'est très difficile de la prouver, parce que déjà, on n'est pas dans la tête des gens. Donc c'est pour ça que le crime de génocide est à prendre avec des pincettes et qu'on a plutôt parlé d'incitation au génocide, qui est aussi un crime d'ailleurs et qui est aussi un crime qui doit être jugé et qui doit être auquel on doit mettre fin. Donc l'incitation au génocide qui est bel et bien présente dans la société israélienne. Par rapport à réveiller les consciences, disons, est-ce que les gouvernements fassent quelque chose? On a pensé déjà en utilisant le terme apartheid pour Israël, donc qui est de plus en plus utilisé. D'ailleurs, au Canada, il y a Israeli Apartheid Week qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous avions pensé déjà que le terme apartheid au niveau de la société civile a fait un grand pas pour vraiment montrer aux gens ce qui se passait sur place. Maintenant, on voit aussi après l'opération Bordure Protectrice que les gens, grâce aux médias et grâce à YouTube, à Twitter, à Facebook, ont pu voir des images qu'ils n'avaient pas vues durant l'opération Casled. Et on a vu vraiment les manifestations qu'il y a eu partout dans le monde d'une ampleur incroyable. Donc on sait que le public et la société civile, je pense, a pris conscience de ce qui se passait sur place. et à arriver à passer outre le message des médias de masse qui disaient tout simplement que c'était une guerre entre des musulmans et des juifs, que c'était, disons, assez proportionné, donner cette impression que ça soit proportionné, et ne parler évidemment jamais du fait qu'il y avait un occupant et un occupé. Donc ça, je pense que la société civile l'a compris de plus en plus. Maintenant, c'est comment... C'est difficile. Comment faire réagir nos gouvernements? Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Puisque on sait qu'il y a les gouvernements ont des intérêts très forts en Israël. Comment les faire réagir sur Israël? C'est difficile. Ça viendra clairement de nous. En tout cas, ça viendra clairement du bottom-up, comme on dit, du grassroots. C'est pas eux du jour au lendemain qui vont dire on va changer notre fusil d'épaule par rapport. Fusil d'épaule, c'est pas une bonne idée de dire ça, mais on va changer notre politique étrangère par rapport à Israël du jour au lendemain. Ça, ils ne le feront pas. C'est vraiment à nous de les pousser. La plus grande question, c'est même sur nos systèmes en place au Québec, au Canada, en France. Est-ce que c'est vraiment des systèmes démocratiques? Puisqu'on voit très bien que la société civile et le peuple est dehors pour demander la fin de l'agression israélienne à Gaza. Et d'un autre côté, les hommes politiques qui sont censés nous représenter ne font rien pour y mettre fin et au contraire, sont derrière Israël. Donc là, c'est un plus gros problème, évidemment.
J'ai deux dernières questions. La dernière portera vraiment sur le Russell Tribunal.
OK.
Mais juste avant ça, selon vous, pour des personnes ici au Canada ou en Europe ou ailleurs, pourquoi est-ce que c'est vraiment dans notre intérêt collectif de prêter attention aux problématiques en Israël? Parce que il y a tellement d'appui et de complicité de nos gouvernements.
Alors ça, c'est une question pour le mouvement de solidarité en général, c'est sûr. Et clairement, les gens ont d'autres chats à fouetter, comme on dit, puisqu'on en a parlé de cette crise économique, le fait qu'il faut travailler, il faut faire des études, si on peut, et il faut trouver l'argent pour le faire, et que chaque société, de toute façon, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, a ses problèmes internes bien spécifiques. L'idée aussi de la Palestine, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'une global struggle, c'est que ce qui se passe en Palestine a une répercussion de toute façon sur ce qui se passe en Europe, sur ce qui se passe aux États-Unis, sur ce qui se passe au Québec et au Canada. On voit des exemples assez frappants à Ferguson, aux États-Unis, quand il y a eu ce jeune homme tué par un policier. Les méthodes utilisées par la police, qui était une police complètement militarisée, pour soi-disant contrôler les manifestations, étaient des méthodes qui sont utilisées dans les territoires occupés. Des chars, des riot gear, des flashballs, des gaz lacrymo. Donc, je veux dire, et Israël est très fort à ça, à vendre en fait. Ils se servent des territoires occupés, et donc y compris de Gaza, comme d'une sorte de training ground, et les Palestiniens sont des guinea pigs un peu pour après pouvoir vendre fièrement leur arsenal militaire, leurs connaissances militaires. Le mur, par exemple, qui est en train d'être construit au Mexique, utilise aussi des experts israéliens. Donc, c'est vraiment cette reproduction de l'occupation. Et il faut qu'on se rende compte que c'est. Il faut penser ça de manière humaniste et internationale, en fait, internationaliste, que la Palestine est vraiment le symbole, en gros, de ce qui va pas dans le monde, entre ce qui se passe par Israël, la colonisation, et puis aussi les complicités du monde extérieur. Mais c'est aussi un symbole, et c'est pour ça que c'est un symbole, de ce qui pourrait aller mieux avec toute cette solidarité internationale, tous ces gens qui sont d'origines différentes, de religions différentes, de coutumes et de cultures différentes, qui s'unissent autour de la Palestine, peut nous faire, disons, il y a cette petite fenêtre que si un jour la Palestine, justice en Palestine est faite, peut-être que c'est une première porte vers un monde meilleur et qui nous touche à nous tous. Et c'est pour ça que le mouvement BDS, par exemple, donc de boycott des investissements et sanctions, est clé, puisqu'en fait, des multinationales canadiennes, des multinationales françaises sont impliquées aussi dans la colonisation. Des supermarchés vendent des produits qui sont faits dans les colonies. Voilà, c'est vraiment une lutte au jour le jour, mais c'est une lutte. Vraiment une lutte sociale. Il faut penser à ça comme une lutte sociale et il faut s'y intéresser parce que si on ne s'y intéresse pas, on sera rattrapé par ça de toute façon.
Intéressant. Vous m'avez appris des choses. Il y en a qui disent que quelque chose comme ce qui a été fait dernièrement, Russell Tribunal en Palestine, que ça va servir plutôt comme dans les archives. Qu'est-ce que vous souhaitez voir à partir de ce qui a été présenté au Russell Tribunal? Avez-vous des grands espoirs idéalistes?
Mais alors, c'est clair que le tribunal est aussi pour ça, pour servir d'archive. Parce que souvent, quand il se passe quelque chose comme il s'est passé à Gaza, il y a plein d'informations, mais il est rare qu'elles soient regroupées vraiment et que les gens puissent, même des années après, aller lire pour savoir ce qui s'est passé vraiment sur place, savoir qui était impliqué, comment ça s'est déroulé. Donc oui, il y a ce travail de mémoire, en gros, d'archives, de mémoire, et de surtout avoir donné la parole aux gens qui l'ont peu dans les grands médias. Ça, c'est un travail important. Mais évidemment, le travail le plus important, c'est essayer de changer l'opinion publique, essayer de galvaniser le mouvement de solidarité par rapport à la Palestine, et potentiellement aussi ce que Israël appelle lawfare, c'est d'essayer par des moyens juridiques de rendre justice en Palestine, c'est-à-dire que par des moyens juridiques, essayer par la compétence universelle de voir si des gens qui ont ordonné donc des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité à Gaza peuvent être amenés dans des tribunaux. C'est de voir si des supermarchés et des sociétés qui importent des produits venant des colonies peuvent être aussi amenés aux tribunaux. Tout ce genre de choses, on espère, peut venir du travail aussi du tribunal, ou le tribunal en tout cas peut aider les gens qui travaillent là-dessus à avancer un peu plus vite. Il y avait aussi l'aspect médiatique, évidemment, avec des gens comme Roger Waters, Ken Loach et d'autres, le fait que ces personnes publiques s'engagent vraiment ouvertement maintenant sur la Palestine, ça ne peut être que bénéfique pour le mouvement de solidarité aussi. Donc il y a toutes ces petites choses, mais c'est vraiment évidemment un travail de longue haleine. Et c'est pour ça que d'ailleurs, après le tribunal, certes, deux, trois personnes du tribunal vont être assez occupées. Moi, je vais à Londres là, samedi, puisqu'on organise un événement par rapport à ça. Je vais aller à Paris aussi. Je vais au Chili, d'ailleurs, ce qui est vraiment super pour parler en Amérique latine de ce travail-là, puisqu'il y a eu un tribunal Russell sur l'Amérique latine. Donc, c'est bien de comment on dit, close the circle ou join the dots. Et voilà, donc voilà, c'est un travail de longue haleine. Mais bon, le but, c'est évidemment que la civilisation humaine, on va dire, mette fin à ce qui se passe en Palestine et quelque part que ça soit le début de mettre fin aux autres injustices. Mais évidemment, c'est très idéaliste de dire ça.
Oui, c'est ça. Non, il y a le volet changement politique, mais il y a aussi un volet relié qui est la rendre justice. Où est-ce que les gens peuvent se diriger pour en apprendre plus?
Alors, pour en apprendre plus sur le tribunal et son suivi, donc sur Facebook, déjà, il y a une page qui s'appelle Russell Tribunal in Palestine. Il y a aussi une page qui s'appelle Palestine Legal Action Network. Et donc, il y a aussi deux sites internet, www.russelltribunalonpalestine.com, c'est tout en un mot, et www.plan, comme un plan, palestine.org.